Bonjour Maurice Godelier, merci de me recevoir dans votre bureau à l'EHESS. Je souhaitais que nous discutions de la manière dont vous lisez les romans de science-fiction et de la manière dont vous les utilisez.
L'aventure, c'est ça qui compte pour moi, c'est une aventure et la découverte d'espèces animales ou proto-humaines ou para-humaines qui peuvent être ennemis ou amis d'ailleurs. Donc la plupart du temps, c'est ennemi. Et donc le héros, parce qu'on s'identifie toujours quand on lit un livre à l'un des personnages, quoi. Ça, c'est évident. C'est un mode de lecture. Donc, le vainqueur me plaît tout le temps parce que il a résolu des problèmes. Par exemple, Lem, c'était un dilemme, puisque tous les vaisseaux spatiaux étaient à l'agonie, enfin, ils avaient été détruits, le personnel, l'équipage. Et donc le dernier vaisseau que je me souviens qui arrive, il y a un biologiste là-dedans, il y en a d'autres. Au début, ils ne comprennent pas ce qui se passe du tout, ils ne voient aucune raison pourquoi tous ces vaisseaux ont échoué là, tous ces cadavres. Et c'est vraiment à la fin, grâce aux biologistes, qu'ils découvrent qu'il n'y avait plus. Dans toute cette planète, il n'y avait plus qu'une espèce animale, c'était des oiseaux, une espèce d'ailleurs d'oiseaux. Tout, il n'y avait pas de vie, quoi. Et donc, finalement, il découvre, ça m'avait frappé beaucoup, que c'était cette espèce d'oiseau qui, en arrivant à s'agglutiner par masse, fondait sur les vaisseaux spatiaux. Les détruisait, puis si l'équipage sortait, il tuait l'équipage. Donc en définitive, c'était cette forme de vie qui subsistait, qui était l'obstacle pour envahir et découvrir cette planète. Donc ouais, ça m'avait beaucoup frappé que ça soit une espèce qui reste, des oiseaux, et qui travaillent en meute. Donc ça c'était donc alors, voilà un peu mon imagination. Et par contraste, je déteste tout ce qui concerne disons disons les vampires, la nuit des morts et tout ça, des revenants, tout ça me fait peur et je n'aime pas, ça me fait pas plaisir. Donc et j'ai peur d'un certain point de vue de même que moi qui ai vu des milliers de masques, il y a des masques que je ne peux jamais supporter de voir, de regarder, ou je les écarte tout de suite de moi. Donc j'ai toujours une sélection pour ne pas souffrir trop du rapport avec l'imaginaire, quoi. C'est le contraire, c'est une jouissance de l'imaginaire. Donc c'est un peu comme ça que c'est vraiment une projection de l'anthropologue. Hein, le vaisseau spatial, c'est partir au loin, pas savoir ce qu'on va rencontrer, improviser la vie sur place. Donc en fait, c'est un imaginaire entièrement structuré par mon plaisir professionnel. Mon plaisir d'exister, de travailler dans ce domaine, quoi. Donc c'est tout à fait complémentaire. Bon, les romans policiers, ça, c'est, il y a beaucoup de romans policiers, hein. J'en ai des centaines chez moi. Donc il y a Mankell, par exemple, le grand qui est mort l'année dernière ou l'année d'avant, le Suédois. Connelly, ce sont des grands classiques, bon, pas pareil du tout. Et en général, là, je m'identifie vraiment avec celui qui résout les problèmes, qui découvre le criminel, quoi. C'est pareil, on s'identifie toujours avec quelqu'un. Et l'idée de que les pistes sont brouillées au départ par l'auteur et qu'en définitive, c'est quand même dans ces pistes que je vais trouver la solution, peut-être même avant qu'il me la donne, ça fait plaisir, quoi, pour la tête. Donc, en fait, c'est ça. Et en même temps, j'aime bien la victoire j'allais dire, du policier sur le criminel. J'aime bien que ça se termine bien, bien par la prise de la capture, la découverte du criminel. Donc, je sais très bien ce qui me motive, ce qui structure mes lectures, mes choix. Avant, et pendant très longtemps, et par obligation peut-être scolaire, je lisais beaucoup de romans classiques, ceux que tout le monde doit lire pour avoir une culture, quoi. Quand on prépare Cagne, Normale Sup, tout ça. Et donc, je ne peux pas dire que je manque de lecture de mes classiques, mais je n'y reviens jamais. Et de temps en temps, j'ai la tentation de relire, mais plutôt, c'est idiot, mais c'est un peu quand même la même chose, l'Iliade et l'Odyssée, parce que je me transporte de l'Antiquité. Et j'assiste à la prise de Troie. Donc ça, c'est bien, parce que j'ai une culture classique. Beaucoup de romans me tombent, qui ne sont pas policiers, parce que je ne demande pas une énorme qualité littéraire à un roman policier. Il y en a une, hein, c'est sûr. Romans de science-fiction, il y a des très grands qui ont marqué, Asimov, tout ça. Il y avait une écriture réelle. Mais beaucoup de romans que j'ai essayé de lire ensuite, des romans d'auteurs qui apparaissent et qui ont même le prix Nobel de littérature française, ça me tombe un peu des mains. C'est-à-dire, j'ai tellement vécu à la découverte de rapports sociaux différents. J'étais au Mali, j'étais 7 ans en Nouvelle-Guinée, on a un travail énorme sur soi-même pour comprendre autrui, que ça me semble un peu dérisoire, les histoires qu'on me raconte. Comme je ne demande rien d'autre que le plaisir aux science-fiction, et que ça me convient, ça me prolonge. Et de l'autre côté, les thrillers ou les romans policiers, je leur demande pas non plus d'avoir le prix Nobel. Donc j'ai une certaine, je le dis, une certaine désertion pour la littérature classique et la littérature moderne qui apparaît, parce que le prix Nobel, comment s'appelle le dernier là, Modiano, ça m'a semblé de l'eau tiède, Il faut une puissance dans les... Si on prend des ouvrages qui ne sont pas formatés comme science-fiction ou roman policier, donc ils ne sont pas dans un genre. Et pour moi, il faut que le livre m'accroche tout de suite et qu'il ait une puissance de restitution de la vie, parce que les auteurs, ils inventent des personnages, un contexte, donc une société, une histoire, et ça se termine par une fin. Donc là, si je retourne vers le classique, je demande de la force, de la puissance, parce que j'admire les auteurs qui restituent beaucoup de choses du réel ou de l'imaginaire important, quoi. Mais j'y vais peu, j'ai peur de Je n'ai plus la patience d'essayer des livres. Par exemple, j'essaie des tas de romans policiers. Au bout de 30 pages, si je vois que ça n'accroche pas, je le laisse. Donc j'ai un tri, quoi. J'attends une qualité d'intrigue et de ce que je lis. Mais avec des romans d'amour, des histoires de vie, des biographies molles, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, je suis plus passionné maintenant par des traités d'histoire, l'histoire humaine qui a existé, avec toutes ces horreurs, toutes ces créations aussi. Je suis plus passionné par lire des monographies d'anthropologie sur des sociétés différentes ou de l'histoire pour des époques différentes, parce que ça, c'est du réel d'un certain point de vue. Et bon, je l'apprends, quoi. Alors, j'ai peur de lire de la littérature d'aujourd'hui si elle est trop tiède, trop molle. Il faut qu'elle soit puissante. Et j'ai pas beaucoup le courage, étant donné toutes les lectures que je fais. Alors, donc, on voit bien que la science-fiction et les romans policiers, c'est un divertissement.
Mais pas seulement. On peut imaginer, Maurice Godelier, que, outre le plaisir que vous procurent les romans de science-fiction, vous pouvez légitimement en attendre autre chose, et notamment la création d'un imaginaire. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous lisez de la science-fiction.
Pour moi, ce sont des mondes imaginaires. Enfin, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'imaginaire et le symbolique. Bon, ce sont des mondes imaginaires qui ont été imaginés, donc. Mais qui, tout ce qui est imaginé n'étant pas imaginaire, on est dans des mondes inventés. En général, lesté, il y a du réel connu dedans, ou du scientifique connu, ou du anticipé, n'est-ce pas ? Et donc, ce n'est pas... Il y a un physicien, vous savez qu'on travaille beaucoup sur les exomondes, etc. Donc je lis les revues scientifiques sur les exomondes, les galaxies, etc. Et alors, il y avait une sorte de phrase, oui, d'un physicien qui disait « On invente toujours les autres mondes à partir de celui-ci. » C'est toujours en opposition ou en injection d'éléments du réel dans lesquels on peut se reconnaître. Les gens marchent peut-être, ils sont soulevés par des forces et ils rejoignent. Mais en même temps, il faut bien voir que si vous prenez les mythes, les mangas et les science-fiction, c'est la même chose, d'un certain point de vue. Parce que vous avez, dans les science-fiction, c'est un peu comme dans les mythes grecs, le héros traverse les montagnes, ou il saute au-dessus d'une montagne, ce qu'on ne peut pas faire encore. Certains peuvent le faire avec des hélicoptères personnels et tout ce que vous voulez, mais bon, c'est difficile. Alors, si vous regardez l'imaginaire des mythes, ben un héros arrête le soleil. Le monde devient une nuit, etc. Donc, c'est la même chose, si vous voulez. Vous prenez ça, vous prenez un manga japonais illustré, donc des dessins illustrés ou des films, et puis vous prenez ensuite Dune pour prendre des choses. Bien, si vous prenez Dune, vous avez un monde sidéral avec des étendues de sable inouïes et puis des forces et des vers énormes qui sont des cavaliers, si on peut dire, des chevaux avec cavaliers. Donc tout ça, c'est... Il y a des éléments du réel qui sont ensuite élargis. Et donc c'est ça qui est intéressant. On dilate, on agrandit, on coupe, on fait des choses dont on rêve. Mais c'était les mythes, les grands mythes de l'Antiquité ou des Indiens d'Amérique ou tout ça. C'est toujours qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas, que l'impossible devient possible.
Est-ce que...
C'est ça le fond de l'affaire. L'impossible est devenu possible.
Est-ce que lisant des grands romans de science-fiction, vous avez parlé de Dune par exemple, qui sont des grandes épopées, est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, Maurice Godelier, vous avez eu, parfois, les lisant, l'envie d'aller explorer ces mondes-là, ces civilisations-là, et de les interroger en tant qu'anthropologue?
Bien sûr. Ce n'est même que ça, mon désir n'est que ça. Comme je m'identifie au héros, je pars dans le vaisseau spatial, j'atterris, il y a des grands problèmes, je ne peux pas repartir, mon vaisseau est paralysé. Je vais rester là, à sortir du vaisseau, rencontrer des êtres avec des intelligences que je n'ai pas, tout ça. Donc, c'est, en fait, je suis un anthropologue dans le vaisseau spatial. Ensuite, j'attends, évidemment, parce que je n'ai pas envie de crever, j'attends qu'on me sauve et que quelque chose encore plus fabuleux me permette de repartir sur la Terre, vivant, n'est-ce pas? Et jeune, en plus. Bon, donc tout ça, c'est... En plus, c'est ça, c'est des... On est dans un imaginaire, un monde imaginaire, mais en même temps, on projette des désirs, on projette des rêves, on projette de l'affect. Donc, c'est pas... Dès qu'on lit quelque chose avec passion, on s'identifie et on se projette. Donc, c'est certain. Je pense que pour les romans policiers, à la différence, c'est très facile de s'identifier. Il y a des rues, il y a un type avec un Kalachnikov, il y a les Russes, il y a n'importe quoi. Ou un gars qui a tué 7 femmes à la fois parce qu'il est un obsédé sexuel. Ok, ça c'est beaucoup plus lesté de réalité, si vous voulez. Si vous prenez la guerre et la paix, c'est des guerres de Napoléon, donc c'est riche d'histoire. Si vous prenez un roman policier, ça se passe tous les jours. Si vous prenez une science-fiction, on a décollé là. Donc si vous prenez les romans, vous avez des romans d'amour, où c'est de la réalité aussi, l'amour, le désir, ou l'échec du désir et tout ça. Donc les quantums, les quantas de réalité qui sont dans les romans changent avec la nature du roman. Roman historique, roman d'amour, roman policier, roman de science-fiction. Donc les degrés, les quantités de réel qui sont investis dedans, qui nous permettent de nous reconnaître, parce que c'est sans quoi autant lire une page d'équation mathématique, on est dans un autre monde. Mais il faut être mathématicien, hein. Donc, mais c'est vrai que c'est un autre monde aussi, hein. Mais qui balaie la subjectivité, parce que si vous voulez, en mathématiques, moi j'aime beaucoup ma subjectivité. Si je suis malheureux ce jour-là, tout ça, 2 plus 2 égale 4, c'est vrai pour un Chinois, pour moi. Donc nos subjectivités sont effacées. C'est pas le cas du tout dans la littérature, la poésie, etc. La poésie me plaît, mais c'est un peu comme de l'imaginaire, de fiction. Parce que les poètes, ils cassent les mots, ils cassent les métaphores et tout ça. Donc, c'est des casseurs, quoi. Et donc, là-dedans, ils mettent aussi de la musique. Si vous prenez Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Il n'y a jamais eu de sanglots. Il n'y a jamais eu de violon pour l'automne. Donc, c'est des métaphores qui ne correspondent à rien, sauf qu'ils portent la musique et quelque chose qui, à travers les mots, se déplace et nous déplace complètement. Les sanglots longs des violons, c'est de l'automne surtout, on est déplacé, quoi. C'est aussi irréel qu'un monde de science-fiction.
Et alors, je voulais en venir aussi à ce moment que vous avez déjà raconté du premier homme sur la Lune en 1969, le 20 juillet. Vous étiez sur votre terrain chez les Barouilla et arrive quelques semaines après le numéro de Paris Match envoyé par votre dame et vous le recevez et là vous devez expliquer aux Barouilla. J'aimerais que vous racontiez cette scène et ce moment.
Oui, j'ai reçu 2000 mètres d'altitude dans la forêt, quoi. Un courrier, c'était Paris Match, avec les photos les plus somptueuses, parce qu'à l'époque, c'était tellement, tellement fabuleux que tous les magazines se sont crevés pour donner des choses très belles. Donc, bon, je vois ça. Et je ouvre tout seul. Je suis complètement passionné, quoi, de voir ça, les photos, là. Arrivent des barouillas autour de moi, et là, je leur dis, je leur fais voir, ils sont de chaque côté de moi, ils sont penchés sur mon épaule. J'ai dit, voilà, il y a un homme qui est sur la Lune, là. En fait, c'est l'homme, c'est pas facile, il y a une silhouette humaine, mais voir l'homme, il faut déjà le dire plutôt que le voir, parce que c'est... avec scaphandre et tout ça, c'était... Et donc, et là, ils ne pouvaient pas comprendre. On était à les limites de leur possibilité d'imaginer, là. C'est ça. Parce que moi, je pouvais l'imaginer et le reconnaître comme réel. Donc, ce n'était pas de l'imaginaire pour moi, c'était de l'imaginer confirmé, parce qu'on pouvait... On savait qu'il y aurait eu des départs vers la Lune et tout ça, donc on ne savait pas quel serait le premier, russe ou américain. Mais à l'époque, il y avait cette attente, quoi. Et on savait, enfin des gens qui ont fait un peu d'études, que peut-être technologiquement, ça serait possible. Donc pour moi, c'était un imaginaire réalisé ou un imaginé réalisé. C'était plus du tout imaginaire, je vois. Là. Et c'est des photos. Donc, ça correspond à une réalité photographiée, quoi. Alors, donc, je leur dis, c'est un homme... alors là, ils ne comprennent pas. Sur la Lune, ils ne comprennent pas. Qui marche. Alors, je lui dis, oui, c'est... Mais pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre? Puisque pour les barouillas, après la mort, on continue à vivre, comme dans toutes les religions. C'est un invariant de toute religion, la mort n'est pas la fin de la vie. Et pour eux, ils ont deux séjours des morts. L'un, c'est sous la terre, l'autre, c'est au-dessus de la terre. En dessous de la terre, c'est des villages qui sont dans les crevasses des montagnes. Et au-dessus de la terre, c'est dans les étoiles. Alors, dire qu'on a marché sur la Lune, surtout que la Lune correspond aussi à la divinité protectrice de l'humide, des femmes, des menstrues, etc., etc. Donc pour eux, les âmes, une partie des âmes, selon les clans, les uns ont leurs défunts qui vont en dessous de la terre, les autres au-dessus. Donc c'était très difficile. D'où après il me demande, mais comment vous avez fait, vous les Blancs, encore une fois, quoi. C'est parce que, pas se faire d'illusions, hein. Les Européens arrivent avec des tas de choses, une radio portable, enfin, etc. Donc, ils ont l'habitude qu'on soit, il faut le dire, qu'ils nous reconnaissent comme supérieurs, comme plus puissants qu'eux. Donc, ils me posent la question, mais comment vous faites, vous les Blancs, là-bas? Comment voulez-vous que j'explique ce que c'est que une fusée à propulsion, etc., très compliqué, quoi. Donc, j'aurais dit, voilà, nous, on a récemment su faire des avions qui, au lieu de voler au-dessus de nous, montent en l'air et retombent après. Mais c'est des moteurs très, très puissants, beaucoup plus puissants que les avions qui passent au-dessus de nous, là. Et donc, ça a permis à un homme d'aller là-bas et de revenir après. Donc, ils ont été très, très étonnés quand même. Ça faisait partie des merveilles que portent les Européens, quoi. Il faut pas se faire d'illusions, parce que je possède le premier récit des forteresses volantes pendant la guerre qui, pour la première fois, sont passées au-dessus de la vallée. Et il y a eu certainement un combat aérien, justement dans les montagnes des Barouillas, au-dessus des montagnes, 3000 mètres, 3300, entre un avion japonais et un avion américain ou canadien, enfin disons australien ou américain. Et donc ils étaient effrayés. Vous voyez pas des oiseaux, quoi, qui faisaient, qui crachait du feu. Donc déjà, l'avion ordinaire avait été un problème pour eux. D'ailleurs, ils m'ont dit, on s'est couché par terre, on était terrifiés, quoi. Et après, un homme que j'ai connu, Dawatnier, pendant la guerre, a fait une grande expédition à pied pour arriver dans une vallée où il y avait une grande étendue plate. Et là, il a vu un aéroport, c'est-à-dire en fait une base où il y avait des avions japonais qui étaient posés. Donc il a vu des hommes entrer dans les avions. De loin, il n'est pas descendu des montagnes, il a regardé ça. Et quand il est revenu, il a dit, il y a des oiseaux on peut entrer dedans. Il y a des hommes qui entrent dans des oiseaux. Alors après, il a dit, mais ça c'est inventé après, que c'était des grands oiseaux de fer, mais bon, il ne savait pas ce que c'était que le fer, quoi. Il ne pouvait pas de loin deviner ce que c'était qu'un avion en fer. Et après, ils ont dit que c'est les blancs qui rentrent dans le ventre des oiseaux. Et après, ils ont découvert les avions après la guerre, puisque il y a eu des lignes régulières. Puis ensuite, la conquête blanche, c'est toujours une colonne militaire, trouver un endroit pour faire des pistes d'aviation et atterrir avec des avions pour apporter des matériaux pour construire des postes, etc. Donc, après, ils ont vu des Cessna en pagaille et tout ça.
Et est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vous leur racontiez, par exemple, des histoires de science-fiction ? Est-ce que vous leur racontiez l'histoire de Dune à ce moment-là ? Ou est-ce que, après être retourné les voir, est-ce que vous vous êtes mis à leur raconter vos lectures de science-fiction ?
Non, c'était pas tellement difficile, mais c'était tellement passionnant et complexe quand même d'écouter leurs mythes, et de les transcrire, d'en comprendre le sens, que j'ai pas... Non, eux, ils me posaient plutôt des questions. Pourquoi tu vas jamais à l'église ? Il y a un Américain qui est missionnaire, toi tu y vas pas. Dans ton clan, enfin chez toi, est-ce qu'il y a des dieux ? Donc je leur disais non, pour chez moi, on ne prie pas les dieux, mais on prie les ancêtres. Les ancêtres ont beaucoup d'importance dans ma tribu. Donc je métaphorisais pour leur répondre, qu'ils puissent capter quelque chose de moi et dire à des gens qui croyaient dans le soleil et la lune et que je ne croyais pas dans les dieux, c'était sans intérêt. On ne peut pas tout dire. Il y a une réserve importante. Une réserve. Bon, déjà, dire que je ne m'occupais pas des dieux, mais m'occupais des morts et des ancêtres morts. Ça, ils comprenaient. À la tête des clans, il y a des ancêtres qui sont donc, qui vivent tout le temps et qu'on peut honorer. Donc je pouvais avoir un culte et un rite, mais pas aller auprès du missionnaire allemand, luthérien, qui faisait des messes et forçait la population à réécouter sa messe, n'est-ce pas ? Moi, je ne pouvais pas faire ça. Non, on ne peut pas. Je préférais raconter l'histoire des Européens, qu'il y avait des guerres chez nous, qu'il y a eu tout ça, que le missionnaire était allemand, que moi j'étais français, que mon grand-père avait été tué par les Allemands, etc. C'était des guerres permanentes entre nous. Et alors ils disaient, ah non, vous pensez que vous ne faisiez pas la guerre, vous étiez tous... Donc une idéalisation des Blancs qui était très intéressante, non ? Et bon, donc moi je faisais plutôt de l'explication de la réalité que de leur projeter mes propres mythes ou mes fictions intérieures, quoi. Mes fictions intérieures. Non, c'était pas. C'est pas. Ça se ferait dans un autre monde. Je pourrais, comme avec vous, je peux parler de mes préférences et tout ça. Sur le terrain, on n'est pas le même. On n'est pas le même du tout. On ne vit que pour connaître les autres. On devient un instrument de connaissance, quoi. Et de partage. Mais je ne partageais pas mes mythes. Je partageais peut-être ma connaissance partielle de la société européenne, quoi. Et puis, bon, je les ai aidés dans certaines circonstances, parce que le colonialisme, c'est terrible, hein, les sociétés perdent du jour au lendemain leur souveraineté. Donc les gens sont confrontés à des rapports de force. Et en plus, les missionnaires leur disent que leur religion est mauvaise, qu'il faut s'en débarrasser. Ce missionnaire allemand, là, qui n'était pas très bon, il était sorti de l'Allemagne communiste. Et il disait aux gens, votre peau est noire, votre âme était noire parce que vous aviez ignoré l'existence de Dieu, de Jésus. Maintenant, si vous suivez Jésus, votre âme sera blanche. C'est pas beau cette mythologie, non? Votre peau restera noire, mais votre âme va devenir blanche. J'écoutais ça et je donnais mon avis aussi là-dessus.
Par la suite, des barouillas ont pu aller à l'école. Et j'imagine que par ce système de scolarisation, ils ont eu accès à de la littérature peut-être mondiale, et peut-être du coup à des livres de science-fiction. Vous en avez entendu parler dans les années 80, par exemple, ou pas du tout?
Non, d'abord l'éducation qui était délivrée par les missionnaires en général, c'était lire, compter, lire, compter, mais lire la Bible. Être capable de lire la Bible en anglais ou en pidgin mélanésien. Donc c'était ça. Ensuite, les plus brillants étaient envoyés dans des collèges où ils avaient un cycle tout à fait australien, quoi, ou européen. Il aurait été plus facile de voir comment les jeunes réagissaient à l'enseignement de la chimie, de la biologie dans le lycée, mais là c'était pas. J'étais sur le terrain avec les sauvages, comment dire entre guillemets, c'est-à-dire les gars qui étaient restés dans la brousse. Leurs enfants étaient partis dans des collèges les plus brillants. Il y en a un qui est devenu professeur de mathématiques à l'université, tout ça. Donc, ce qui est fulgurant quand même, des gens qui sont pris dans la brousse et qui emmenés par les missionnaires dans des collèges. Parce qu'ils ont l'air de se distinguer, on les retrouve 12 ou 15 ans plus tard, professeurs de mathématiques à l'université de Leigh. Donc ça veut dire que le même cerveau était capable, alors qu'il sortait du néolithique. Hein. Donc la démonstration était faite qu'un autre était devenu ingénieur forestier, quoi. Donc. On voyait bien qu'une fois qu'ils étaient en contact avec. Ils prenaient cette culture. Alors là-dedans, la seule mythologie qu'ils rencontraient, c'est le christianisme. Et encore, à travers tellement d'écoles protestantes, d'églises protestantes qui étaient en compétition entre elles, les pentecôtistes, etc. Donc. Ou des témoins de Jéhovah qui leur interdisaient de manger du porc alors que c'était la ressource principale et de fumer, donc, alors que c'était des grands fumeurs. Ensuite, les pentecôtistes qui entraient en transe ou baptisaient certains dans l'eau jusque au-dessus de la tête. Tout ça pour eux, ça a été un monde, une rencontre avec l'imaginaire européen, mais je ne les ai pas interviewés là-dessus. Là. Mais c'est certain que pour eux, ça devait être aussi étrange d'avoir à être baptisé, et rentrer dans l'eau jusqu'à la tête, avec des gens qui chantent en anglais. Ça devait être un peu comme un transport dans une étoile, quoi, dans une planète morte même, je dirais, pour être méchant. Ça va ?
Merci beaucoup, Maurice Godelier. Merci.
Alors, je vais dire...